Tuer ce requin ne sera pas une chose facile. Le poisson n'est pas un poisson comme les autres. Ce requin est un mangeur d'hommes. S'il plante ses dents et qu'il referme ses mâchoires, vous êtes foutus.
Oh, arrêtez! Il suffit de lui mettre une balle dans la tête et c'est lui qui est foutu. Pas vrai?
Le requin-tigre que nous recherchons est un maniaque.
You're gonna need a bigger podcast.
Bienvenue à la plage, bienvenue sur Shark Parade, votre podcast tout entier dédié à la plus grande gloire des films de requins tueurs. Je suis le professeur Rico, et nous nous retrouvons pour nos pèlerinages balnéaires dans les eaux troublées de la Sharkspotation. Nous reprenons le cours normal de nos émissions après le hors-sujet avec Romain autour de Jaws Free. Je vous en rappelle vite fait le principe, nous avons tiré au sort deux films de requins que nous allons passer sur le grill pour en déterminer les capacités squalo-cinématographiques ou squalographiques, c'est-à-dire l'originalité, l'histoire, l'ambiance, les personnages, la réalisation, les requins. Leur attribuer une note par compétence de 0 à 3, si c'est non acquis, insuffisamment acquis, en cours d'acquisition ou acquis, pour les 3 points. Une appréciation personnelle de 2 points pour compléter et arriver à une note sur 20. Ce qui va nous permettre de reclasser le film dans une des 5 catégories suivantes. Incontournable au-dessus de 16, bon au-dessus de 12, routinier au-dessus de 8, nul au-dessus de 4, et en dessous de 4, à fuir. Et soyons honnêtes, après visionnage, on a tiré deux films très différents, mais pas parmi les plus passionnants du genre. Puisque nous aurons Spring Break Shark Attack de Paul Shapiro en 2005, et Shark de Samuel Fuller de 1969. Alors, prêt à jeter à l'eau ?
Bonjour la Floride !
Le soleil, la plage, le paradis.
Vive les vacances !
Une seule ombre au tableau.
C'est quoi ça ? Oh mon
Dieu ! Daniel, des requins !
Méfiez-vous de l'eau.
M'aidez ! Des requins !
Elle ne dort jamais vraiment. Panique sur la côte, ce soir à 20h50 sur D17.
Bon allez, meilleur moyen de soigner cette crève, un grog, on s'enroule dans un plaid et un bon film de requin. Ah, qu'est-ce que j'ai là ? Panique sur la côte. On l'a vu aussi diffusé sous les noms de Shark Attack ou Vacances mortelles à Seagull Beach. Ah bon, ça doit être une valeur sûre, hein. Il est passé 6 fois sur D8 hein, entre 2012 et 2014 et 4 fois sur D17 entre 2014 et 2016. C'est un gage de qualité. S'il le diffuse autant, c'est qu'il doit être très bien. Bah, en tout cas, il doit y avoir de la demande. Bon, allez. Il y a des requins, des filles en bikini, un propos social sur le mal-être adolescent, interprété par des acteurs qui ont 25 ans bien tapés, mais bon, ça devrait le faire. Alors, on commence par 3 bimbos sur un Zodiac, qui se font bouffer super rapidement par Tigrou, le requin-tigre, qu'on voit pas, par quelques gros plans flous furtifs sur des dents et sur une gerbe de sang. Ouais, c'est l'intro classique, on pas trop la bête pour commencer. Ensuite, on nous présente les personnages. C'est Spring Break et la jolie Danielle voudrait bien aller en Floride pour passer les vacances avec les copines à faire la fête. Mais son père est pas vraiment d'accord parce que bah la Floride, c'est dangereux, il y a plein de garçons libidineux, tout ça.
Oh, je viens d'avoir Karen et Alicia.
Est-ce qu'elles vont bien ?
Oui, oui, elles m'appelaient de la maison de Floride. Elles disent que c'est vraiment génial.
Danielle.
Écoute-moi d'abord.
Tu n'iras pas, c'est hors de question.
C'est juste une semaine.
Une semaine avec une bande de crétins enduits de gelée qui se battent dans des piscines gonflables. Elle mérite mieux que ça. Oh,
tu regardes beaucoup trop la télé. Et puis c'est l'occasion rêvée de revoir mes amis. Des amis que j'ai pas vus depuis qu'ils sont à l'université.
James Stern est beaucoup mieux.
Oui, oui. Et en plus, on a de très beaux dortoirs.
Ta chambre de jeune fille ne va pas te suivre toute ta vie.
Oh, mais ça n'a rien à voir. C'est dingue, je peux même pas aller m'acheter un truc sans avoir un mouchard électronique accroché à la cheville.
N'importe quoi, Maggie, tu veux bien m'aider, là.
Ouais, tu m'étonnes qu'elle va pas respecter ça. Les bonnes filles vont au paradis, les mauvaises filles dans des DTV tout pourris. Donc évidemment, elle obéit pas, elle part faire la fête en Floride avec ses copines sur la plage. Là, elle tombe sous le charme d'un bel être local, le genre gentil garçon, un peu ténébreux, mais quand même bien au fond. Et puis elle attire aussi l'attention d'un espèce de dragueur tête à claque. Le genre qui veut épater les mecs de sa confrérie d'étudiants. Ça parle, ça blablate. Tiens, Brian Brown. Cocktail, FX, effet de choc. Ah bah, je suis content de te voir. Enfin une tête connue. Tu joues quoi exactement là? Un genre de pêcheur désabusé? Vache, comme t'as l'air d'en avoir rien à foutre. C'est pas bon signe, ça. Ça parle, il se passe pas grand-chose. Ah si, il y a le frère de Daniel, qui est étudiant-chercheur en biologie marine, qui discute en pleine mer sur la disparition des tortues. Il semblerait qu'il y ait des requins. Ah, là, il y a un requin qui passe, ça y est, il est reparti. Ça discute, toujours rien d'intéressant. Des peines de cœur, on raconte sa vie aux copines. Ça fait la fête, ça boit, ça fait des sauts langoureux. Et ça fait 35 minutes d'exposition, avant enfin une petite attaque sur deux jeunes qui font du surf à minuit, expédiés en 50 secondes, montre en main. Et c'est reparti pour 20 minutes de parlotte. Ah, le gros lourd se transforme en prédateur sexuel, qui tente de verser de la drogue dans le verre de l'héroïne pour la violer, mais elle est sauvée par le beau gosse de service, ça va pas plus loin que ça. Ah, tiens, il y a des montagnes en Floride maintenant. Ah bah oui, en fait, c'est tourné en Afrique du Sud, au Cap, comme la moitié des films de requins de l'époque. C'est marrant, à force de les voir, ces films, je finis par reconnaître les paysages. Bon allez, vous faites quelque chose, au moins, c'est chiant, il se passe rien. Il reste 15 minutes de film, et ça veut... Ah si, ça y est, les requins se décident à attaquer une régate nautique. Ouais, ils ont construit une grande jetée artificielle, et donc c'est ça qui dérangerait l'habitat des requins. Et qui ferait qu'ils se réunissent à plus de 500 pour attaquer la ville. Ok. Ouais, au moins ça bouge un petit peu, quoi. Ça décide nos héros à se sortir les doigts et s'occuper du problème. Il était temps. Il nous reste 20 minutes de film à tout casser, générique inclus.
Allez, Daniel,
attends,
quoi ?
Il faut que tu m'as
Daniel, stop ! Stop,
quoi ?
Stop, qu'est-ce que tu penses ?
Agite-toi, ça, d'accord ? Et ne bouge plus ! Ne bouge plus un muscle, d'accord ? N'agite pas les jambes, ne bouge pas ! Reste aussi immobile que tu le peux ! C'est bien ! Et ne dis rien, pas un son ! Qu'est-ce que tu fais ? Il faut qu'elle nage ! Ça va pas, non, l'écoute pas, Daniel ! Vas-y, faut que tu nages, Daniel !
Écoute-moi ! Les requins sont attirés par les mouvements. Si elle bouge, ils l'attaqueront et elle mourra. Daniel, écoute-moi. Daniel, continue comme ça, c'est très bien.
C'est pas bien, mais c'est pas bien. Il se passe rien. Même mon virus du rhume, il est mort d'ennui. Oh là là, je vais avoir du mal à en parler dessus, attends, il se passe rien. C'est construit comme un téléfilm avec des peines de cœur pour ados peu inspirés, avec juste un peu des requins qui se décident à apparaître aux trois quarts du métrage. Et puis, je vais pas me rattraper avec le casting, hein, c'est pas des mauvais, mais c'est impersonnel. C'est des vétérans de séries télé, à part Brian Brown et Katie Baker, qui sortent d'ailleurs rien dans le film, c'est tous des comédiens qu'on a vu apparaître dans Troisième Couteau, dans des séries télé du moment. Franchement, y a pas grand-chose à dire. Alors le réel, c'est un certain Paul Shapiro. Alors c'est un gars de télé qui filme depuis les années 80, il a fait tous les épisodes de séries télé de téléfilms de Noël possibles. Ouais, film utilitaire, il sait faire. Il y a bien un ou deux plans un petit peu plus réussis, mais bon, c'est quand même vraiment téléfilm. Même les producteurs, hein, Von Zerneck, certains films. Une boîte de prod installée depuis les années 80 dans le business, eux aussi, qui fournissent du contenu aux grandes chaînes de télé, ici c'est CBS. C'est terrible, il n'y a rien qui ressort, il n'y a rien qui dépasse, je peux rien en dire de ce film. C'est d'un ennui mortel. C'est pas suffisamment débile, malgré le titre, pour être fun. C'est pas suffisamment bien filmé pour être intéressant. C'est deux séries. Ce qui est dommage, parce que l'attaque sur la fête nautique est plutôt nettement torchée. Hein. Mais c'est quoi, c'est 3 minutes du métrage ? Filmer le plus impersonnellement et proprement possible pour que ça passe un samedi après-midi sur une chaîne de télé quelconque. Pas de gore, pas de sexe, c'est le film de requin Disney Channel, quoi. La musique est signée par Danny Lux, un habitué de séries télé, et elle est impersonnelle au possible. Des ritournelles piano pour les moments calmes, un peu de percu et des attaques au violon pour les moments avec les requins. Aussitôt entendu, aussitôt oublié. Danny Lux qui se vante quand même sur son site d'avoir fait la musique de plus de 1850 épisodes de série, rien que ça. Ouais, alors jusqu'à présent, j'ai beaucoup critiqué les The Asylum. Et je sais, j'ai eu des remarques sur ma prononciation. Ou encore les New Image. Mais au moins, ils essaient de faire des séries B, aussi mal branlées et opportunistes soient-elles. Là, c'est le film de requin fait par des gens qui non seulement n'ont rien à foutre du genre dans lequel ils travaillent, mais qui ont en plus le torche en le formatant pour en faire un truc le plus impersonnel possible. Même les extraits que j'essaie de diffuser, j'arrive pas à trouver quoi que ce soit qui est intéressant qui ressorte. Bon, je vais pas m'acharner, je puis les gaules.
La population de tortues de mer a brusquement diminué à Seagull Beach. Elles doivent se faire dévorer, vous croyez pas?
Tu me caches le soleil, Charlie.
Et quel est le plus grand prédateur de la tortue de mer? Le requin-tigre.
Oui, et
quel était le sujet principal et d'ailleurs unique de ta thèse déjà? Laisse-moi réfléchir, qu'est-ce que c'était? Oh, le requin-tigre. Oh, quelle coïncidence, Charlie.
Coïncidence?
Je crois pas, non?
Pour l'amour du ciel, petit, c'est les vacances. Regarde, j'ai du margarita et de la glace pilée, là.
Alors, les compétences holographiques de Spring Break Shark Attack. Originalité, Nanaki. Les requins qui attaquent des étudiants sur la plage. C'est peut-être déjà beaucoup fait. Alexandra Java va le reprendre d'ailleurs pour faire son Piranha 3D. Mais lui au moins, il aura fait un truc intéressant. Histoire, bah, c'est des romances adolescentes, hein, et à force de n'avoir rien à raconter dans tous les sens, bah, il se passe rien. Ce qui fait que l'ambiance elle est non acquise non plus, hein, il se passe pas grand-chose, jusqu'au dernier quart d'heure, où au moins on a un petit climax, mais c'est expédié tellement les enjeux tombent à plat. Les persos sont insuffisamment acquis, hein. On suit Daniel qui va passer d'étudiante proprette à jeune femme qui a pris conscience de ses responsabilités. En gros, les comédiens ils s'en mettent presque autant que les spectateurs. Réalisation, c'est insuffisamment acquis. Il y a quelques plans un peu réussis qui sauvent le naufrage, parce qu'il y a une équipe technique compétente. Mais on voit les requins tellement peu. Et d'ailleurs, les requins, eux, ils sont en acquis, hein, on les voit à peine. Bon, ben, ça fait un total de 2. C'est rare, mais je vais même carrément enlever un point. On va tomber à 1. C'est carrément à fuir, et c'est officiellement le plus mauvais film que nous avons traité jusqu'à présent. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est pire qu'un Jurassic Shark, qu'un Raider of the Lost Shark, ou qu'un film de David de Coteau? Bah au moins ceux-là, ils ont l'excuse d'être amateurs. Ils ont l'excuse de pas avoir de moyens. Là, il y a de la compétence technique. Mais il y a aucun effort. Il y a aucune volonté de livrer autre chose qu'un produit qui n'est que de l'eau tiède. Et à force de faire un truc sans intérêt, on se retrouve avec une note sans intérêt. Bon allez, fermons le banc avec ce film et intéressons-nous à un autre beaucoup plus vintage. Shark 1969, Samuel Fuller.
Any sharks down there? Naturally. Well, aren't you gonna carry a gun or something? Sharks are cowards, Mr. Kane, haven't you heard? You know, I used to do a little diving myself.
If anything goes wrong down below, we might need him.
What's a girl like you
doing in a place like this?
I want to know what the Victoria was carrying.
I'm not that greedy.
You were born greedy.
How do you like the feel of my gold, Kane?
La nostalgie ne pardonne pas tout. Vous avez pu déjà le constater, j'ai une tendresse particulière pour les films anciens, pour les productions un peu vintage, qui ont une patte, un charme, que le tout venant de la production directe ou vidéo n'a pas forcément. Et avec ce Shark, alias Kane, on remonte très loin en arrière, puisqu'on arrive carrément en 1969, soit avant Les Dents de la Mer, soit le film le plus ancien traité jusqu'à présent. Et on rentre ici dans un genre un peu particulier du film de requin, parce que malgré son nom définitif de Shark, les requins en question sont davantage les personnages humains que les squales en goguette. En fait, le film appartient à un sous-genre plus particulier du film de chasse au trésor. Un trésor gardé évidemment par des requins. C'est un genre assez prolifique jusqu'aux années 80, en témoigne La Nuit des requins de Tony Ricci qu'on a traité dans le numéro 11. Nous nous retrouvons donc à la fin des années 60 au Soudan, pour suivre les aventures de Kane, un trafiquant slash aventurier slash petit truand, qui après avoir perdu une cargaison d'armes qu'il espère vendre avec profit, échoue sans le sou dans un petit port miteux sur la mer Rouge. Il y croise un vieux médecin alcoolique, un petit voleur des rues, et surtout un couple de chercheurs américains qui s'intéressent de très près à une épave qui gît au large du village, dans une zone hélas infestée de requins. Ceux-ci cherchent un plongeur pour remplacer celui qui vient de se faire dévorer par l'un d'entre eux en explorant le bateau englouti. Anna, la femme du couple, commence même à faire un peu de rentre-dedans à Kane pour qu'il se joigne à leur petite expédition.
T'es en train de penser à Dan?
C'est ton amant?
Non. Il a été comme un père pour moi. Il m'a tout enseigné. Il m'a emmené partout. Et comme au travers des années, il a été le seul homme que j'ai connu, j'en ai été amoureuse. Mais rien à voir avec le sexe.
Tu prétends qu'il est au-dessus de ça?
Tout à fait.
Ali Baba et les 40 voleurs, c'est un conte de fées aussi, tu sais.
Tu ne m'as pas cru. Hein?
Ou alors c'est un sacré fou. Oui, il te trouve imbaisable.
Et cette histoire va vite se transformer en panier de crabes. Ce qui est le plus étonnant dans le film, c'est l'extraordinaire misanthropie générale des personnages. Soyons clairs, Kane, le héros du film, c'est un parfait connard. Misogyne, raciste, violent, prêt à toutes les bassesses et à tous les coups tordus pour arriver à ses fins. Seule son amitié pour le gamin des rues peut le rendre sympathique, et encore, c'est après qu'il l'ait torturé une première fois quand le gosse a essayé de le voler. Mais à sa décharge, personne ne vaut guère mieux dans ce coin perdu du Soudan, et on a là toute une belle collection de personnages plus amoureux les uns que les autres. Le style de personnage picaresque est assez typique des années 50-60. Des gens sans scrupules, revenus de tout, qui n'auraient pas dépareillé dans un Le Bon, la Brute et le Truand ou dans Le Salaire de la Peur. Et pour incarner Kane, ce tropical Trump désabusé, on a Burt Reynolds. Sans, hélas, sa trademark moustache, et qui prête sa carrure et son air narquois au personnage. Il est parfait dans le rôle, entouré par un casting de vétérans comme Arthur Kennedy ou Sylvia Pinal en Femme Fatale. Mais si l'interprétation est solide, le reste du film prend l'eau à pas mal de niveaux. Pourtant, il est signé d'un nom prestigieux, Samuel Fuller, réalisateur et scénariste mythique de l'âge d'or hollywoodien, à qui on doit notamment des films comme Le Port de la Drogue ou Shock Corridor. Un personnage haut en couleur, vétéran de la Seconde Guerre mondiale où il a été reporter de guerre, et non franc parler, le caractère bien trempé lui ont valu de se fâcher avec tout Hollywood et de passer la fin des années 60 et le début des années 70 à naviguer dans des productions de seconde zone. Et c'est ainsi qu'il accepte de réaliser ce film qui doit au départ s'appeler Kane et se passer au Soudan. Sauf que c'est tourné au Mexique, avec un casting local qui fait qu'on a un Soudan sans le moindre noir. Juste des Mexicains avec un fez ou un kéfi sur la tête. Tout au plus, on aura quelques plans de raccords touristiques filmés par une équipe locale avant de revenir sur ceux qui tournaient au studio au Mexique. Et le tournage a été houleux, semble-t-il. Au point même que Fuller renie carrément le film, reniant le montage final et disant qu'on a assassiné son projet. Faut dire qu'à la vision, le film est assez bancal, avec des raccords foireux, des plans recadrés de façon hasardeuse. Le film étant accompagné aussi d'une musique assez jazzy de Rafael Moroyoki, qui n'est pas désagréable mais qui est souvent hors sujet. Ce sera d'ailleurs sa seule contribution au cinéma à part un film religieux, tourné la même année.
C'est pour de vrai?
Je te l'avais bien dit. J'ai besoin d'un bateau pour ce soir, très tard. T'en connais un?
Je viens aussi.
Et qu'est-ce que je fais sans toi?
J'ai un bateau avec une petite voile.
Mais surtout, ce que Fuller ne va pas digérer, c'est un coup marketing particulièrement crapuleux de la part des producteurs qui ne vont pas hésiter à capitaliser sur l'accident mortel d'un des cascadeurs du film, José Marco, qui s'est fait attaquer par un requin lors du tournage des scènes sous-marines, rebaptisant donc ce film Shark au passage. C'est délicat. Désavoué par son auteur, le film va sortir à la sauvette et va être rapidement oublié, d'autant que, sans être désagréable, il n'est pas bien passionnant. Il fait terriblement cheap, que ce soit dans les décors, que ce soit dans les scènes d'action ou les scènes sous-marines. En plus, le remontage fait souvent peine et ne rend pas justice notamment aux scènes sous-marines qui sont pas très très bonnes. Les requins sont filmés de loin, et puis les quelques interactions entre les plongeurs et les squales sont d'une terrible mollesse. Mais il y a quand même des bons moments, notamment le final avec pas mal de choses trappées et de coups tordus. Tout le monde trahit tout le monde, avec un cynisme consommé, et le héros ne vaut pas mieux que les autres. Bref, une bande d'aventure à petit budget pas franchement fabuleuse, mais soyons honnêtes, qui se laisse regarder. Un film qui ressortira d'ailleurs quelques années plus tard, opportunément au milieu des années 70 avec le succès des Dents de la Mer, sous le nom de Man-Eater, avec le slogan « Plus mordant que Jaws ». Faut peut-être pas exagérer.
Où avez-vous pris l'équipement de plongée?
Tu m'emmerdes avec cet équipement.
Sortez d'ici tout de suite.
J'espère que vous avez bien tout remis à sa place.
Oh, tout sera à sa place quand il m'aura donné la moitié de mes protéines.
Sortez d'ici, vous êtes viré.
Alors vous virez votre associé, votre partenaire.
Mais... partenaire en quoi?
Partenaire sur tout ce qu'il y a à bord du Victoria. On partage 50-50. Tout ce qu'on trouve est à nous deux. On va travailler tous les deux. On va chercher tous les deux. On va plonger tous les deux. On va se donner un nain tous les deux. On va tout faire tous les deux.
Alors, quelles sont les compétences chorégraphiques de Shark? Originalité en cours d'acquisition. Chassé croisé autour d'un butin par des crapules finies, c'est encore frais à la fin des années 60. Histoire insuffisamment acquis. Ça devient vite prévisible, on voit les rebondissements et les trahisons assez loin à l'avance. Surtout que, il y a quand même pas mal de mollesse dans l'action, ce qui fait que l'ambiance elle aussi est assez insuffisamment acquise. C'est languissant, le rythme est vraiment pépère, et au final, il faut vraiment attendre la deuxième partie pour que les choses s'accélèrent un peu. Personnages en cours d'acquisition. Si les premiers rôles sont vraiment bons, dans le genre cynique, les seconds rôles, eux, sont tenus par des Mexicains qui sont passés au Brunois pour avoir l'air plus bronzé et avoir donc l'air d'Africain. Ça fait un peu blackface, c'est un petit peu gênant. Réalisation insuffisamment acquis. Le film a été désavoué par Fuller, c'est pas très étonnant. Il y a encore quelques plans intéressants, il y a des idées, mais globalement, c'est quand même un film d'aventure à petit budget qui manque clairement de moyens et d'ambition. Les requins, eux, sont non acquis, on les voit très peu. On se demande presque pourquoi le film s'appelle Shark. Les quelques attaques manquent de puissance, elles ne sont pas suffisamment impressionnantes, les requins sont souvent filmés de loin, et puis quand ils attaquent, ce sont vraiment des petits requins. Ce qui nous donne un total de 8, je rajouterai un demi-point pour la patine et puis pour le cynisme de l'ensemble. 8,5, c'est routinier, un petit film d'aventure assez vite oubliable, tant il est sabordé par une production et un montage hasardeux, sans compter un doublage d'époque complètement aléatoire, comme vous avez pu l'entendre sur le dubbing. Bref, un petit film pas déplaisant, mais qui aurait pu être bien meilleur s'il n'avait pas été à ce point vandalisé. Heureusement pour Samuel Fuller, il va pouvoir un peu rebondir dans les années 80, avec notamment Dressé pour tuer et Au-delà de la gloire, deux films qui vont le remettre un petit peu sur le devant de la scène, et permettre de se rappeler quand même du grand réalisateur qu'il fut. Bon, soyons honnêtes, une émission un peu en demi-teinte, avec des films mauvais, ou pas très passionnants. Allez, on va faire mieux pour la prochaine fois. Alors, qu'est-ce que je tire de ma boîte à requins? Bates 3D, un film de Kimble Rendall de 2012. Bon, soit. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? This Ain't Joe's The Porn Parody, 2012, Stuart Canterbury. La version porno des Dents de la Mer. Très certainement une version très fidèle, que l'on va pouvoir voir avec une attention très cinéphilique. Alors, nous nous retrouvons non pas dans 15 jours, mais un petit peu après, je vais prendre un petit peu plus de temps, parce que je ne vous cache pas qu'au point de vue professionnel, j'ai énormément de travail en ce moment, les conseils de classe, le bac blanc, la préparation de la réforme du lycée, bref, je vais avoir besoin d'un petit délai avant la prochaine session, mais ne vous inquiétez pas, je vais regarder ces films à tête reposée très bientôt. On se retrouve très certainement mi-mars. En attendant, vous pouvez retourner sur la liste de Quentin pour retrouver tous les films dont on a parlé sur Sens Critique. Sinon, sur YouTube, une chaîne très sympathique, Conneries sur VHS, qui a sorti pas mal de vidéos très intéressantes sur Norbert Moutier ou sur Cinéman de Yann Wax. Je vous recommande d'ailleurs cette dernière vidéo très drôle. Voilà, je vais essayer de soigner mon rhume pour la prochaine fois. En attendant, vous pouvez retourner vous baigner.